Sociétaire Matmut.
Allez, c'est l'heure de la basse, j'y suis avec Daniel Mermet, c'est parti.
Eh oui, on est toujours là. La Vassie, j'y suis, à 15h, du lundi au vendredi, sur France Inter.
Bon, salut toute l'équipe. Voilà, j'étais en train de m'installer sur mon canapé avec un petit café, après une petite matinée difficile, juste pour savourer votre émission. Et je m'entends et je tombe du canapé avec mon café qui me tombe dessus et mermet. Bon sang, qu'est-ce que je vous aime. Et votre répondeur, c'est à tous qui m'écoutent. Il faut qu'on se rejoigne et le dise.
Alors, il y a un auditeur dans le répondeur qui a dit qu'il était super content de retrouver Mermet parce qu'il nous faut de l'information. Mais Mermet, il nous sert que des légendes. Il faut qu'il soit très con, quoi. Mermet, c'est Bartleby. Avez-vous le préféré de notre... tout ce qu'il fait. En quoi il fait de l'information?
Entendu chez Pascal Clark, là, il y a 5 minutes, on n'a jamais eu autant de talk shows en access prime time. Comme disait Rezer, on vit une époque formidable. Salut.
Oui, bonjour, c'est Léon. Alors je dis bravo à France Inter, parce que la culture avance et la connerie recule. 1h40 d'émission en moins à Mermet et Frédéric Mitterrand sur l'antenne. C'est pas formidable ça, je dis bravo.
Salut Daniel, salut aux AMG de La Réunion et d'ailleurs. C'est déjà la rentrée pour le Café Repère La Cerise à Saint-Paul, île de La Réunion. Le thème du débat mercredi soir à 20h sera « Démocratie et citoyenneté, quel est l'état des lieux ?» Venez nombreux avec vos idées et votre bonne humeur, c'est à 20h. À bientôt.
Merci pour tous ces messages chers AMG. Puis voilà, bah, les Cafés Repères, ça repart. Ça, c'est celui de La Réunion, mais il y en a beaucoup d'autres. En France, je rappelle aux nouveaux, là, les nouveaux auditeurs, ce qu'est un café repère de la basse où j'y suis, dans votre village, dans votre quartier, où vous voulez, où vous habitez. Vous vous dites, tiens, il y a peut-être des gens dans le coin qui écoutent France Inter, qui écoutent la basse où j'y suis, ce serait marrant de les rencontrer, et puis de parler, puis de faire des trucs ensemble, peut-être. Alors, eh bien, c'est très simple, vous nous envoyez un message sur le répondeur de la basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37 et vous dites je vais faire un repère et vous dégotez un bistrot ouvert bien où tout le monde peut aller le café des sports, le café de la place, le café de la poste où vous voulez et puis bah, vous décidez que c'est là que ça va se passer, vous donnez rendez-vous, vous nous dites voilà le café repère ce sera tel jour à telle heure et puis vous y allez et puis vous allez voir des gens arriver que... et puis peut-être 3, peut-être 30, on sait pas. Et puis après, vous vous débrouillez. Vous débrouillez, ça dure depuis des années, les cafés repères de la basse où j'y suis, je ne sais pas, une dizaine d'années peut-être, non, un peu moins. Et il y en a qui se sont développés, qui font des trucs formidables, d'autres qui arrêtent, qui reprennent, etc. Voilà, on est très heureux de ça. Et ben là où on va aujourd'hui, c'est assez cet esprit-là. On va à Uzest. Dans les Landes, vous savez, chaque année à la rentrée de là-bas, si j'y suis, Antoine Chao nous parle de cet endroit-là parce que il y est, il y vit une partie de l'année. Et là se passe un festival autour qui a été créé par un musicien, Bernard Luba. Oui, ça vous dit quelque chose, Bernard Luba. Et vous allez voir, c'est un festival particulier où il se passe bien sûr beaucoup de choses, mais d'une façon particulière, avec une histoire, un terroir et un vrai mélange, une occasion de confrontation aussi entre des gens de cultures différentes, d'univers différents, et qui arrivent à se parler, à se frotter, depuis la musique de bal, le baloche, on va avoir de la musique de bal, jusqu'à le free jazz avec Luba et Portal par exemple, depuis les discussions, les formations, les stages pour les gamins, jusqu'à des philosophes de haute volée qui parlent sous les arbres, entourés par une vingtaine ou une centaine de personnes. Un très très bel endroit, un très très bon endroit. Mmh. Et bien c'est là qu'on va, jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37, je le répète.
Oui, bonsoir, j'écoute souvent votre émission, qui m'intéresse énormément. Je voulais vous faire part d'un problème que vous avez traité d'ailleurs. Il s'agit du film Les Nouveaux Chiens de Garde. Le producteur du film Les Nouveaux Chiens de Garde est carrément blacklisté à France Télévisions et une pétition circule sur awaz.org. Je m'appelle Jacques Assoun. Voilà, merci.
Salut Daniel, je te signale que le samedi 14 septembre à 20h, au centre Albert Chanot de Clamart, il y aura la projection du film Le Caron architecte, avec Jacques-Émile Le Caron, qui est le fils de celui que nous avons connu aux arts appliqués. Bien à toi, Bouton.
On continue à faire une musique désagréable à l'oseille. Ce qui fait que les gens du pays ne nous prennent pas pour des sauveurs. Si j'étais un chanteur de variété, il y a longtemps que je serais élu maire ou député.
Mes programmes infiniment plus réjouissants. D'être nuisible aux dominants.
Ils sont pas fous les gens du coin. Ils ont compris qu'on n'était pas au coin. Alors ceux qui restent au coin, les gens du coin, ça les secoue. Ils sont pas très à l'aise parce que les gens du coin ne sont pas tous. Et c'est compliqué, les gens du coin. Même un petit coin comme ça, il est multipiste, il est gauche, droite, centre, il est très compliqué. Et ça, c'est intéressant.
Eh oh ! Tu m'entends ? Eh oh ! Ah ! Ça y est ! Tu m'écoutes ?
Radio News 98.6, 22h au chapiteau Alban Luba, le manifeste L'Est, la nuit des amusiciens, amusiciennes, où l'origine est devant tout.
T'as raison !
Convivialité. Convivialité.
Alors, t'en penses quoi?
Mais, Luba, Guette.
On a une éthique poyélitique, quoi. Voilà. Artistique, politique, quelle dialectique.
Quelle belle soirée!
Il est une manière d'aimer son pays qui consiste à ne pas le vouloir injuste et à lui dire.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao Luba. Si j'y suis, désagréable à l'oseille.
Approchez-vous, la buvette du comité des fêtes est ouverte. Elle vous attend dans une ambiance apéro swing.
Ce qu'il y a de bien à Uzest, vous voyez, c'est qu'on improvise toujours. Il y a 2 secondes de ça, je ne savais pas que je viendrais là, sur cette estrade, mais invité par notre camarade Alain Delmas, nous y voilà, j'y suis.
Philippe, Bernard,
Alain,
Martine,
Anne-Marie,
Roger,
Philippe,
avec nous,
Alain.
Et voilà, on est à Uzest, populaire et savant, improvisé et virtuose. Free jazz et balmusette, baloche et philosophe. Émotion et règles. Science et conscience. Fromage et dessert, modeste et génial. C'est le festival, le 36e festival. D'Uzès, ce petit village des Landes qui chaque année au mois d'août, la troisième semaine du mois d'août, accueille, vous allez voir qui, vous allez voir quoi, pendant quelques jours, c'est un moment absolument délicieux, ça s'est passé, mais notez ça, pour l'année prochaine, allez faire un tour là-bas, Il y a un esprit particulier qui rôde là, qui est là, présent, et qui mêle, je le disais en commençant, des gens différents, d'horizons différents, qui essayent pendant quelques jours de se parler, de se coltiner les uns aux autres, d'improviser, mais comme dans le jazz, c'est-à-dire d'une façon extrêmement savante. On ne fait pas n'importe quoi. On a l'air de faire n'importe quoi, mais on ne fait pas n'importe quoi. Vous allez voir, c'est un endroit délicieux et formidable. Et je voudrais parler des tireurs de queue de tigre, vous savez. Mais c'est ça, les gens disent. Moi, je ne peux pas m'empêcher de tirer la queue du tigre qui dort. La queue du tigre qui dort. C'est très bien, mais à condition qu'il ne soit pas en cage.
C'est le festival.
Marcel Tria, parle-nous un peu des gens qui sont autour de cette table-là et qui sont en fait les piliers de cette histoire, de ce festival. C'est combien, Antoine ?
36e Esteillade, ouais, 36e édition.
36e Esteillade.
L'Esteillade, c'est la fête en Occitan, en Gascon. Ici, c'est l'Esteillade de la Sarthe, c'est le festival du Zest, hein, créé par Bernard Lubat, voilà, il y a 36 ans maintenant.
Ah, mais alors, ce qui est formidable, c'est qu'on dit Bernard Lubat, on voit un musicien, un artiste, et là... Il y a la cégette qui est là, c'est pas tout à fait les mêmes mondes en principe.
Depuis 25 ans, grâce à cet individu, là, Alain Delmas, qui était à l'époque secrétaire régional de la CGT, qui a copiné avec Bernard Lubat, et ils ont décidé de travailler ensemble. Non seulement ça veut dire qu'ils participent au festival, mais ils le conçoivent avec Lubat.
Quand on dit CGT, on pense Ricard et accordéon, quoi. C'est l'accordéon aussi, cela dit.
Oui.
Lubat, c'est l'accordéon aussi. Et le père Lubat, c'était l'accordéon aussi.
Oui, et Marc Perron.
Marc Perron aussi. Donc il y a une voix là.
C'est difficile à expliquer, Uzeste. C'est un truc à vivre, quoi. Donc tu vas te retrouver des moments avec justement l'appel des appels. Tu vas voir Gori qui va faire une conférence. Tu vas venir ici, on va réfléchir sur le rapport entre l'art et le travail. Et puis tu vas passer après avec Perron. Tu vas passer après avec Dédé Mainvieille qui va venir chanter. Tu as cette rencontre entre le monde de la création et le monde du travail. Et les copains qui sont venus ici, au début, ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on vient foutre ici ? On comprend rien, machin, c'est pas notre culture, etc. Et puis petit à petit, les mecs, ils s'y sont mis, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont découvert d'autres visions du monde, d'autres modes de pensée.
Qui, les artistes ou les deux.
Ben voilà. Les deux. Ouais. C'est ça l'intérêt. On vient pas prendre la bonne parole, c'est qu'on vient échanger. Alors au début, c'était compliqué.
Il y a quand même une sacrée défiance entre les uns et les autres.
Des deux côtés.
Pour les uns, c'est des beaufs. Et pour les autres, c'est des rigolos. Saltimbanques irresponsables.
C'est pour ça que, si tu veux, il faut du temps pour ça. Il faut du temps de rencontre, il faut du temps d'échange. Il y a une notion de confiance, tu vois, qui se construit au fil des ans. C'est vrai qu'avec Bernard, bon, il y a du moment, on s'est foutu un peu sur la gueule aussi, tu vois, parce que on aborde des sujets qui fâchent, en voyant comment on peut inventer l'avenir, quoi. Tu vois, quand on parle d'utopie, etc., moi je pense que la CGT ici, en rencontrant notre vision du monde, en se frittant avec l'art, avec la création, eh bien, ça nous fait du bien, quoi. Tu sors du carcan, quoi, tu vois.
Combien de spectateurs viennent ?
Entre 700 et 1000 personnes à la journée. le week-end. Sinon, là, les débuts de semaine, on devait tourner à 400-500 sur le village, tu vois. L'idée, c'est pas de grossir, c'est de grandir. Pouvoir avoir des lieux de proximité, tu vois, où ce phénomène de starisation, etc., ça n'existe pas ici, quoi. Donc, t'as Portal qui se balade, t'as Boringer, t'as Antoine, machin, et voilà, on se fout une table. Antoine Chao lui-même, tu sais que c'est une personnalité ici.
Ah, oui. Faut pas déconner.
Attends, il tient la barre depuis 15 ans, lui, ici. Hein. Il faut mesurer l'importance de la radio dans l'Esteillade même, et au-delà de l'Esteillade. Ce média-là, sur place, bon, ça arrose tout le tour, là. En plus, c'est un lieu où on va se retrouver, où il va y avoir des débats. C'est essentiel, son truc.
On aime dire avec Antoine que la radio, c'est un art forain. Tu sais, on aime bien dire ça, nous, parce que c'est un truc qui se bricole, on en fait toujours trop. Enfin, c'est ça, la radio, quoi. Mais là, c'est vrai, pour le coup. Parce qu'il y a une petite caravane, là, dans le fond, et qui est ton studio.
Ouais, voilà, c'est notre studio mobile qui diffuse, là. Effectivement, depuis bientôt 20 ans, hein, on mène cette aventure radiophonique collective. Hein, on est 4-5 à faire vivre Radio US pendant le festival, ouais, pendant l'Esteillade. 24h/24, le jour et la nuit.
Vous écoutez Radio U
98.6, 36e Esteillada de la Sarthe, du 17 au 24 août 2013 à Uzest.
Radio U.
Radio U's avec nos reporters très spéciaux, Antoine Chao, Rémi Chen et Thomas Boumans.
Et Mathilde et Maxime Amer qui nous ont rejoints.
Radio U's, la radio qui jascogne les idées arrêtées.
Radio U's. Radio qui jamais nous sue.
Salut, c'est Thomas de Radio Use. Bon, là, on vient de sortir du concert de Michel Portal et Bernard Lubat.
Festival du Zest en direct.
On a passé un très bon moment. Alors moi, perso, j'ai trouvé ça très très sympa. Bernard a su mettre pas mal de fantaisie ce soir. Il m'a fait bien marrer. Et voilà.
Parce que pendant ce temps-là, il y a une autre fête qui n'a rien à voir avec ce dont on parle. C'est un mariage. Les gens sortent de la collégiale. Alors, ils la jouent un peu, la noce, à l'ancienne. Redingote et tout, on s'amuse, on se déguise un peu.
Non, ils ne sont pas déguisés. Hein. C'est un mariage de la haute bourgeoisie. Donc, ils ne sont pas déguisés.
Hein. Non, 300 invités, c'est un mariage. Alors, ce qui était marrant tout à l'heure, c'est que quand la mariée est rentrée dans la collégiale, et les copains qui étaient là ont entonné l'international.
Bah oui, mais c'est un chant religieux aussi, l'international. Hein, c'est...
Sur les vitres des voitures, il y a le...
C'est autocollant Civitas, tu sais.
Ah oui.
Ouais. Donc nous, on mariage pour tous et tout. Donc bon, ça énerve un peu, quoi.
Rassure-moi, c'est pas un mariage gay. Les cloches, la mariée, tout, c'est un beau mariage. La CGT a son mariage. C'est la CGT Aquitaine. Ça, c'est quand même la fête, non?
Autrefois, le bas peuple venait au mariage comme ça, on leur jetait des dragées.
C'est un lieu important pour les cathos, la collégiale, avec le pape. Il y est toujours à l'intérieur, l'enterré là.
Il y a le pape Clément V, hein, c'est ça, qui a été pape d'Avignon et qui est né ici.
La mariée, elle est en burqa blanche.
Ah ouais, non, mais ça, c'est une situation très, très cocasse. Voilà, le monsieur avec son blazer croisé, son panama. Là-bas, il y a les redingotes, des dames en robe longue devant cette collégiale, cette grande église-là du Zest. Et il y a évidemment... parmi les festivaliers, il y a deux filles qui, pour rigoler, sont mises devant l'église et qui se sont roulées une pelle. Il y a deux gars qui ont fait c'est nous les mariés, là. Donc ça a commencé un tout petit peu à chauffer. C'est rigolo, quand même. Voilà, c'est ça, la culture. Bon, on va aller voir Bernard.
On cherche Bernard Lubat, s'il vous plaît.
Mais pas.
Vous connaissez pas?
Pourquoi il se fait dans le mariage?
Et quelle famille?
Boyer d'Outremont.
Pardon ?
Boyer d'Outremont.
D'accord. Donc c'est pas Bernard Lubat qui se marie. D'accord.
Le mariage, on va le célébrer beaucoup plus loin. On est venu ici que pour la messe.
Alors pourquoi ici à Uzest ?
Excusez-moi, je cherchais quelqu'un.
Je vous en prie, moi aussi, je cherchais Bernard Lubat.
On n'est pas du coin. Nous, on est venu pour le mariage, on n'est pas du tout d'ici.
Allez voir.
Peut-être là-dessous, là, ça sera mieux. Là.
Le festival de Bernard Lubat, ça n'a rien à voir.
Non. Ah non, pas de rapport.
Non, c'est un mariage qui sort en même temps.
D'accord.
C'est un mariage.
Et donc, qui se déroule ici dans cette collégiale.
La messe a été dite, là.
La messe a été dite.
Oui, ça y est.
D'accord.
Fini,
et il y a eu du jazz, alors, ou pas? Parce que c'est un festival de jazzman.
Non,
ça n'a rien à voir.
Non.
Parce que je vois qu'il y a les stands de la CGT, là, c'est pas...
Non,
j'ai rien compris non plus, je sais pas pourquoi.
Ah, ça vous a étonné aussi?
Oui.
Moi, j'étais très étonné en arrivant, effectivement.
Mais non, c'est pas ça.
D'accord. J'ai cru que c'était une mise en scène.
Non. C'est un reste de folklore un peu désuet. Mais bon.
Ah, ce mariage, vous
non,
voulez
non,
dire
non, je parle de la CGT.
Ah bon.
Non, c'était un vrai mariage.
Et je crois que c'est la vraie CGT aussi.
Oui, sûrement ce qu'il en reste, en
Merci.
Tout cas.
Voilà ce qui peut arriver à Uzest pendant le festival. Les festivaliers qui sont là, et puis ce mariage dans cette collégiale qui est un monument historique, vous avez compris, très important, avec cette famille Boyer d'Outremont qui célébrait un mariage. Alors il y a la messe, comme dit la dame, la messe a été dite, avec une liturgie, avec des costumes, avec un prêtre. Il y en avait deux vrais à l'ancienne, avec des soutanes. Il y en avait un qui avait un bon gros bidon, comme sur les images de fromage qui représentent les curés Rubico sur les images de fromage. Il y en avait un là, c'était vraiment un monde avec sa liturgie. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est un autre monde avec une autre liturgie. Tas de bois, c'est une sculpture ou c'est un tas de bois, Antoine?
Toi qui connais. c'est les deux à la fois.
C'est beau, oui, je comprends. Oui, c'est très beau. Il y a des lettres qui sont dessinées avec les rondins de bois. Alors ça pourrait être un hommage à Alexeïev, l'inventeur de l'écran d'épingle, qui faisait des dessins animés, des films d'animation, avec des épingles plus ou moins enfoncées dans la toile. Et ce qui permettait de dessiner. Et ça, c'est E, c'est un E, ça ?
Ouais.
E, R, R...
Libre.
Ah, libre ! Libre, qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Libre, avec des rondins, d'énormes rondins. C'est vrai qu'on est, quand même dans les Landes.
Et c'est un atelier d'improvisation qui a été mené par des architectes ici, des étudiants d'architectes de l'Université de Toulouse qui sont venus et qui ont passé un certain temps à Uzest. Et qui ont travaillé la matière première ici, donc le pin, le bois. Et là, on approche du chapiteau. On est derrière l'école. Il y a le chapiteau jaune qui est dressé pour le festival, l'Esteillade. Et normalement, on devrait retrouver Bernard qui est en train de préparer ses engins, quoi, ses machines, son piano préparé, sa table préparée.
Ah! Article que tu décides d'être sympa, tu découvres que je l'escrève dans la soie de tes mimiques, de tes misères. Son reptile, tu t'envies de face de rein que tu te payes à crédit, maman sualité. Alité, alléluia, Louis, Louis dort debout, couché, genoux, il bourré, il m'a eu pas pris chaud, tu parles d'un dieu, ah, à cuire. Ah, mais tu dois, mais tu vois que je t'ai mis, Là, je joue sans pas étouffer, tu vois. C'est juste quand je fais les questionnements du début, là, les trucs comme ça, tu vois, que ça se met. Non, c'est voilà, ouais, c'est vers là qu'il faut tailler. Ah, ouais, mais vas-y, mais exagère, tiens, exagère. D'abord, exagère. Alors, c'est pas demain, ça sera pas en prison. Alors,
Voilà, voilà. Ouais, allez, c'est bon.
Ça y est, la balance est terminée pour le spectacle de ce soir. La dernière soirée de l'Estéiade.
Radio Uz, 36e Estéiade de la Sarthe à Uzest. À 22h, sous le chapiteau Alban Lubat, manifestation l'Est, la nuit des amusiciens amusiciennes, où l'origine est devant nous, où l'histoire d'un idiot dopé par l'indignation d'une jeunesse exaltée en jazzé. Incroyable mais frais.
Bon Bernard, mais les gens de ta génération sont tous des renégats hein, en général.
Pas tous, non. Il y en a qui se sont bien installés.
Là, tu répètes pour ce soir, dans ton petit patelin.
Ouais, ben oui, comme ça, comme un grain de sable qui n'en finit pas de commencer.
Tu as passé ta vie à répéter.
Oui, j'ai passé ma vie à répéter que je n'avais rien compris. J'ai passé ma vie à jouer surtout, tu vois, comme un enfant. Quoi. Je joue. Ce soir, je vais jouer à la musicien. Après ces journées où j'ai passé des soirées à jouer avec à l'autre... Ce soir, je vais jouer à moi-même, enfin seul. Manque de peau, ils vont m'envahir à un moment donné, quoi. C'est sûr, ils vont me piétiner. Tous ces jeunes-là, c'est insupportable. C'était une centaine de jeunes mecs de 20 ans qui veulent ma peau, quoi.
C'est-à-dire que tu vas jouer avec ta table?
Oui, je passe à table. Et mon accordéon, ma batterie, piano...
Et depuis quand ça dure, cette histoire-là, du zeste?
36 ans, ça fait 36 ans qu'il paraît que ça dure. J'arrive pas à y croire, c'est pas étonnant puisque je suis pas croyant, je suis pratiquant. Oui. Donc c'est pas grave. Mais ce qui est marrant, c'est que ça fait 36 ans qu'on fait ça, qu'on joue à ça, on sait toujours pas le faire. Mmh. Et pourtant, on n'en est pas dégoûté, quoi. C'est, le désir est intact, tu vois. C'est ça qui est curieux. En tous les cas, c'est peut-être ça que j'aime dans la musique et dans le jeu, dans le fait de jouer, quoi, de se jouer de soi, quoi, tu vois, de se mentir vrai. Quoi.
Les petits genoux là, qui vont t'envahir et qui veulent te foutre dehors, tu leur racontes l'histoire de l'estaminet, de ton père qui était musicien, du bistrot, et t'arrives à les intéresser ou ils s'endorment dès que tu commences?
Ben, j'ai la seule façon que j'ai trouvé de les intéresser, c'est de les mettre au boulot, tu vois. C'est d'assumer la suite, quoi. Ils ont pigé que cette histoire, ça pouvait être la leur, tu vois. Là, ça les intéresse, tu vois.
Alors, qu'est-ce que tu leur racontes? Tu leur dis, il était une fois mon papa.
Il était une fois plusieurs fois. Voilà. Oui. Voilà. Un papa, une maman, une histoire d'émancipation, finalement, parce que mes parents sont arrivés de la terre, ils étaient métayers, fils de métayers, et quand ils sont montés au village, dans le fait de monter un café, c'était impensable. Tu changes pas comme ça de classe sociale, surtout avant la guerre, en 35, parce que l'estaminet, c'est maison fondée en 1937. À cette époque-là, tu changes pas de classe sociale, tu passes pas comme ça Non, c'est pas possible. T'es métayer, prolétarisé pour l'éternité. Quoi, voilà. Donc, ils ont osé franchir ce cap. Ils ont pris ce café en viager. Et après la guerre, c'est reparti de plus belle. Et là, il s'est transformé d'un vieux débit de boisson. Il a monté un débit de passion. Voilà, de sa propre passion à lui. Et il a vraiment travaillé la passion du village. C'est devenu un dancing, un hôtel, un restaurant, voilà, une épicerie, une quincaillerie, enfin, tu vois.
Un rockstore, quoi.
Ouais, voilà. Un estaminet, puisque...
Oui, c'est le mot. Bah, mais, oui, le mot existe, ouais. Estaminet.
Et le mot vient d'un réfugié belge qui, pendant la guerre, s'est planqué ici, et qui dit, il est bien ton estaminet. Mon père a entendu ça, il a fait café l'estaminet, voilà.
Et les idées de ton père, c'était quoi?
Les idées,
enfin, de ta famille, de ta mère aussi.
Ben, les idées, quand t'arrives d'où ils arrivent, elles ne sont que révoltées, résistantes et communisantes. Quoi. Mon père était un communiste à titre privé, il ne s'est jamais engagé dans aucun parti, mais il était communiste. Son idée à lui, c'était pour partager, il faut créer. Et il a su créer et partager. Parce que c'est vrai que tant qu'on ne crée pas, on ne peut pas éprouver la joie de partager. C'est vraiment une joie de partager. Parce que justement, là, on découvre que ce qui compte, c'est l'échange avec l'autre qui nous change. Ce n'est pas le fait d'avoir été capable de créer seulement. C'est ce que je continue, moi, tout simplement. Quoi.
Alors ton père jouait de l'accordéon, mais qu'est-ce qu'il jouait? Des rumbas, des valses et...
Ouais, c'est ça, oui.
Du dancing, du baloche.
Oui, mais le baloche des années 50, le baloche de la Libération, le baloche des GI, c'est-à-dire de la musique des disques qui nous arrivaient des États-Unis, les mambos, les cha-cha-cha, les boléros, tout
Glenn
ça.
Miller.
Oui. C'est-à-dire toute la musique d'avant la guerre. 39-45, c'était la musique occitane d'un pays d'agriculture et d'élevage disparu petit à petit, puisque les gens aussi sont partis travailler à la poste, ils se sont émigrés. Le pays s'est vidé comme ça en quelques années. Et donc cette musique occitane a disparu, était remplacée par cette musique qui arrivait, Xavier Cugat. Voilà, une musique qui plaisait à la jeunesse, quoi. Et ils se sont mis à cette musique-là, mais ils ont été vite dépassés parce qu'ils ne savaient pas bien la jouer, donc ils ont arrêté la musique. Mon père et ses copains ont arrêté la musique. Et 50 ans plus tard, en 78, quand on commence à avoir l'idée, par hasard, de refaire une manifestivité ici, c'était avec Michel Portal et Patrick Osier, mon compagnon de longue date, qui est artificier.
Attends. Là, tu sautes des mailles là, dans le tricot. Entre 78 et quand ton père arrête la musique, il y a toi, il y a le Luba, le Bernard qui arrive. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu es un intello de la musique. Non. Pas un balochard.
Non, moi, je suis né dans un bal et j'aime la musique de danse. Et je pense que la musique de danse, c'est une grande musique. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'est pas enseignée dans aucun conservatoire, parce que c'est une grande musique. Mais elle n'est pas si facile que ça à jouer. Elle est dans aucun cursus de l'éducation, partout. C'est bon. Moi, je suis parti à Paris, comme tous les autres, pour être au chômage quelque part ailleurs, quoi. Après quelques études sommaires au conservatoire, je suis rentré dans le métier. J'allais à Pigalle, tu vois, tous les mardis soirs et vendredis soirs, où il y avait le rassemblement des musiciens qui cherchaient du boulot, tu vois. Voilà. Et j'y étais, alors voilà, je cherche un batteur, il y a une bagnole. Ah oui, t'as pas de galerie. Ah non, mais ça marche pas. Bon, d'accord. Tu joues du piano aussi? Non, ben bon. Bref, voilà. J'ai commencé à trouver quelques cachetons comme ça. Il y avait des balles à Courbevoie ou des trucs comme ça. Donc, j'ai trouvé du boulot comme ça. Et petit à petit, j'ai trouvé du boulot dans les théâtres. Tu vois, j'étais remplaçant au Moulin Rouge. Je me tapais toute la revue, tu vois, la batterie, ce qui pour un jeune mec était une aventure formidable, surtout avec les danseuses qu'il y avait, etc. Bon, ça me changeait de, tu vois, de...
Et de changer de quoi? Tu vas dire une connerie sur ton visage.
Oui, non, justement.
Tu t'es arrêté.
Oui.
Voilà.
Parce que mes copines gasconnes du village étaient petites et mignonnes. Mais là, j'avais affaire à des grandes suédoises. Voilà. Ça m'en foutait plein la vue, quoi.
Bon, tu joues de la batterie derrière des danseuses. Et puis?
Et puis, en même temps, je découvre le jazz, tu vois. Saint-Germain, c'était en 1962-63. Le Blue Note, rue d'Artois, ça c'était rive droite. Des clubs de jazz partout. Alors là, je comprends que je vais écouter ça. Et là, je comprends que j'ai rien compris, quoi. Pourtant, j'ai un diplôme du conservatoire, premier prix, des trucs, machin, tout en règle. Et ben là, j'entends les mecs, j'entends ça, comment ça joue, comment ça vit. Ça a été la grande découverte, quoi. La grande nécessité de cette musique afro-américaine, tu vois, formidable, quoi.
Qui tu peux citer là? Art Blakey.
Art Blakey, mais surtout ceux avec qui j'ai joué, Bud Powell, Kenny Clark, pas que des Américains, Pierre Michelot.
À la basse.
Ouais, Maurice Vander, le pianiste. Voilà. Et Dexter Gordon. Toi, Ben Webster aussi. J'étais tout jeune. 1963, c'était le triomphe, la pleine époque du bebop qui vraiment éclatait, tu vois, qui était somptueuse, avec une bande allumée, très allumée par les deux bouts. Et donc là, j'ai compris que la musique, c'était vraiment pas du tout ce qu'on m'avait dit. C'était pas un assemblage de notes pour faire joli, quoi. Tu vois, voilà, c'était autre chose, quoi. Et puis, parallèlement à ça, comme cette vie nocturne coûtait cher, parce que le jazz était vraiment très mal payé, je faisais des cachetons dans les studios d'enregistrement de l'avènement de l'industrie du disque.
Requin.
Voilà, je suis devenu en quelques mois d'ailleurs un requin de studio. Tout le monde me voulait partout pour jouer de la musique merdico-dépressive, mais qui commençait à se vendre partout. Voilà, c'était l'époque des chanteurs Dalida, Claude François, tous ceux. Maintenant, on en parle de ça pour certains avec des trémolos dans les yeux. Oui, dans les yeux, oui. C'est pathétique parce que vraiment, je trouvais ça d'une nullité. D'ailleurs, toujours ça, nul. Mais c'est ça qui a lancé le commerce du disque, quoi. Avant, ça n'existait pas, le disque. Brel est né avant les disques, tu vois. Brassens aussi. Léo Ferré aussi. Après, les disques, ça a fait des... ça a fabriqué des produits, des couillons, des couillonnés, et des auditeurs qui se sont fait avoir, quoi, parce que c'est la conserve. C'est... Après, maintenant, on est dans la plénitude des plats préparés, là, réchauffés. Là, on est bien, là, on est complètement dans la zone. Alors, je vous préviens, cette chanson est en langue d'oc. Ça sera comme de l'américain, vous ne comprendrez rien. Oui, surtout qu'ici, à Uzès, on cherche tellement à comprendre que pour une fois, profitez-en, vous n'allez rien comprendre. Voyez, je vous l'avais dit que vous compreniez, hein.
Donc, en 78, tu décides de reprendre le flambeau ici, à Uzest, l'estaminet. Tu dis à ton père, écoute, j'ai une idée. Non, c'est ça ?
Ouais. Je passe par là avec Portal en tournée, je ne sais pas où on était. Parce que ça fait longtemps qu'on joue ensemble, qu'on joue l'un contre l'autre depuis 30 ou 40 ans. Et on passe par là et on dit, tiens, si on faisait un truc à Uzest, alors on va d'abord manger le jambon, le confit. Et on voit une église, cette collégiale qui est sublime. Ouais. Puis c'est couvert, il ne pleut pas dedans. Bon. Mais on décide de faire un concert, voilà, comme ça. Et il y a du monde. Et puis dans ce contexte, on se trouve dans une liberté qu'on n'avait plus déjà ailleurs. Donc, c'était la fin des clubs de jazz en 78. C'était l'apparition des festivals de jazz. Ah. Alors, dans les clubs de jazz, on était libre, mal payé, libre, humidifié, enfumé, tout ça, mais libre. Après, sont arrivés les festivals de jazz. Alors là, on a commencé à devenir moins libre parce qu'il fallait être beau. Il fallait plaire à ses parents, il fallait être, tu vois... Le jazz, c'est ce qui lui est arrivé depuis 20 ans. Il a été blanchi, retapé, ils ont remis de l'ordre, quoi. Voilà, à part, il y a encore des vrais désordonnés, il en reste encore. Et heureusement, ils n'arriveront pas à les capturer tous. Mais il y a des festivals de jazz partout qui plaisent un peu partout parce que c'est pas trop, ça fait pas trop de dégâts, c'est à peu près voilà. Donc, et tout ça fait pas de, n'articule pas un futur resplendissant, je veux dire, pour la musique improvisée, quoi. Donc à Uzest, on a découvert très tôt que la liberté pouvait continuer malgré tout ce qu'on nous parle, ce que nous dit la société, qu'il faut produire, qu'il faut construire, qu'il faut financiariser, tout ce qui... confondre libéral et lire mal, par exemple, bon, très bien. Donc la liberté peut continuer. Et c'est une responsabilité. Et c'est ce qu'on continue à faire ici.
Là, vous créez un festival. Mais alors, il y a une alliance, enfin une rencontre, un emboîtement avec la CGT... avec les gens du coin, c'est pas seulement les artistes qui se font plaisir et qui se disent à quel point ils sont formidables entre eux, avec un public qui est là pour applaudir. Non, vous essayez quand même de vous frotter, de vous mélanger, de vous opposer, de vous castagner, de vous allier avec les vrais gens de la vraie vie.
Oui, parce que on continue à faire une musique désagréable à l'oseille. Ce qui fait que les gens du pays ne nous prennent pas pour des sauveurs. Si j'étais un chanteur de variété, il y a longtemps que je serais élu maire ou député. Mais comme je suis un musicien, un artiste, il n'en est pas question. Ils sont pas fous, les gens du coin. Ils ont compris qu'on n'était pas au coin. Alors, ceux qui restent au coin, les gens du coin, ça les secoue. Ils sont pas très à l'aise, parce que les gens du coin ne sont pas tous. C'est compliqué, les gens du coin. Même un petit coin comme ça, il est multipiste. Il est gauche, droite, centre, il est très compliqué. Et ça, c'est intéressant. C'était la possibilité pour nous de nous inscrire dans une contradiction, poseur de problèmes. C'est pour ça que la CGT est là, un syndicat qui réfléchit bon, ce à quoi sert un syndicat. C'est pour ça qu'on a rapidement eu besoin de sociologues, de philosophes, de penseurs, de littéraires, parce que la musique, c'est pas de la musique. Quand ce n'est que de la musique, ça finit par n'être que du commerce. C'est ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qu'on entend partout dans les radios, c'est pas de la musique, c'est du commerce. La musique, c'est autre chose. La musique, c'est pas ça, quoi. Ça n'a pas cette esthétique, ni cette forme, ni ce goût-là. Mais les gens s'en rendent plus compte parce qu'on leur a caché ça. Ils savent pas. Alors, il y a plein d'endroits en France et ailleurs où il y a encore de la musique vivante, jouée par des musiciens vivants, dans une relation vivante avec des spectateurs, avec des auditeurs. Voilà. Mais ça, ça rapporte rien, ce truc-là, tu vois, parce que c'est pas de la marchandise, c'est de la relation humaine, quoi. Alors ça se chiffre pas, donc c'est de la liberté. Et donc, ils ont pas réussi encore à trouver, comme dit Léo Ferré, il dit la fabrique du désespoir. Ils ont pas encore réussi, mais quoi que ça vienne, ils arrivent quand même à nous vendre le désespoir. On est même plus capable de se le faire nous-mêmes. C'est-à-dire, on nous dit partout, n'existez plus, achetez-le. On a une éthique poélitique, voilà. Artistique, politique. On a fait un débat il y a 3 jours qui s'intitulait « Artistique, politique, quelle dialectique ?»
Ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Votre truc, vous bossez, vous élaborez. Les gars de la CGT nous disaient qu'ils interviennent, ils proposent des trucs. Finalement, c'est toi qui décides à la fin, donc tu es le chef. Mais tu commandes en obéissant, comme disait le sous-commandant Marcos.
Pas mal, oui, c'est exactement ça. Je suis surtout sur la barricade que j'ai proposé qu'on construise. Tu vois, j'ai proposé qu'on construise une barricade et j'y suis dessus. Voilà, c'est ça, à ce sens que je suis le fèche, le chef, je ne sais pas trop. Je n'aime pas le mot trop, mais je suis un des responsables. Avec la CGT aussi, on réfléchit à beaucoup de choses. C'est-à-dire, la liberté, ça s'apprend, quoi. C'est pas inné, comme dit Cynthia Fleury, tu vois, cette philosophe. Il y a plein de gens qui arrivent ici, ils se disent « Oh, Uzette, putain, c'est chouette, ils arrivent pour jouer, c'est libre, on peut faire ce qu'on veut. » Je dis « Non, non, viens pas quand la table est mise, quoi, aide-nous à mettre la table. » Voilà, parce que si on avait voulu être des porte-parole avec 15 000 personnes par jour, ça aurait été très possible. Ils le font tous partout, ils ne rêvent que de ça. Même les couillons qui imitent les gros cons. Ça arrive, je dis ça comme ça. Ouais. Mais nous, on a appris au fur et à mesure des années à justement cette fierté et cette humilité, voilà, de grandir sans grossir. On a appris ça, même si c'est difficile à tenir, parce que les gens, ils doutent de nous, parce que nous ne sommes pas majoritaires. Comme dirait Deleuze quand il disait, c'est quoi être de gauche? C'est savoir que la minorité, c'est tout le monde. Alors je réfléchissais, moi, c'est quoi être de droite? C'est croire que la majorité, c'est moi. Donc on a besoin des philosophes, on a besoin des lettrés, on a besoin de ceux qui pensent, qui travaillent à la pensée, pour continuer à être capable de penser et justement de ne pas nous laisser faire. Parce que les bons conseils que nous donne l'ultralibéralisme, que nous donne cette logique du marché, voilà. On n'en veut pas, on veut résister à ça. On veut continuer à montrer, à prouver que c'est possible, à la condition que les pouvoirs publics continuent vis-à-vis d'actions comme dans la nôtre, à se rendre compte que là, on leur propose de faire leur boulot. Et puis, il faut qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut arrêter de faire des zéniths à la con, à la gloire finalement du marché. Il faut qu'ils financent des micro-activités. Il y a de plus en plus d'artistes, notamment des artistes, qui se mêlent de celles et ceux qui les regardent. Parce que c'est toujours cette majorité du nombre, cette lâcheté du nombre, dont disait Victor Hugo, toi, qui est pénible, quoi. Et pour les gens, c'est un problème parce que... Je sais plus qu'elle disait qu'on n'est pas dans l'individualisme, on est dans l'égoïsme grégaire. Parce que l'individualisme, on va de 50 000 au stade, tu vois, pour bonjour l'individualisme. Hitler, bonjour l'individualisme. Staline, l'individualisme, bonjour. Enfin, dans notre histoire, aussitôt qu'il y a une lumière qui s'allume, on fonce dedans, quoi. Non, on est, c'est pas ça. C'est cette grégarité qui est troublante, qui vient, je sais pas d'où ça vient, d'un manque de culture, de conscience de soi, ou d'exigence de la relation, ou je sais pas, quoi. Pourquoi on va tous dans des camps de concentration, à 20 000 ou 30 000, en payant même, on y va comme ça, pour voir des nains de jardin sur des scènes qu'on va chanter à 200 mètres, avec une sono géante, avec une télévision géante posée sur un pré, comme ça, et voilà. Et alors, on nous propose ça, et ça marche. C'est ce qui m'interpelle, et c'est ce à quoi on essaie de résister, et immodestement, on essaye de proposer des alternatives à cette fatalité, quoi.
Luba, si j'y suis. Désagréable à l'oseille, c'est un reportage avec Antoine Chao. Merci à toute la compagnie Luba et à l'équipe de Radio Use. Merci à Lydie, à Alain Delmas, à Marcel Tria, à Sylvie Gravagna et à tous les autres œuvriers du Zest. Et d'ailleurs, on les retrouvera demain, deuxième volet. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». Également sur le site labas.org, la-bas.org. Et puis il y a la page Facebook de l'émission qui vous attend à la technique aujourd'hui. Gaël Braouzek et Nicolas Slimani. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adirer, préparée avec Pierre-Yves Bulteau et Stéphanie Fromentin elle-même. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Occitanie, malpadac, perdu sous une pension, silencieux, j'ai pas le cabi qui pue des masses, exil, swing, Paris, misère, Charlie Park, Parker, jazz, panique, swing, maniaque, ça m'a pris de but, j'étais sous de mon padac, c'est une ration, padoc, transit innocent, je craque la blue note, je me tire une balle, musette, plein cœur dans le mirette, Didi, quel est peut-être l'ennemi.
Eh bien entendu, c'est sûr de venir, mais ça se soigne, si tu pouvais plutôt chanter l'amour, toujours l'amour, de l'air, pâturage, collé du midi en pur, de vin, plus redondant, on pourrait mieux, puis je l'enfer de ta rengaine, et si t'arrêtais de monter et de descendre son côté, tes 50 bas côté, l'argus, on pourrait t'y reconnaître, d'accord, est un con, mais tu pourrais enfin mettre de l'eau dans ton swing, si tu veux pour moi, chaque nous blâmer responsable, bleu, rouge, rouge, carré, je sens swing, jazz, money, swing, man, expert, technique.
Vite, mais boum, boum, boum. Boum, 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 comme toujours que je scattrape au bateau de la canne à marin, à chaque fois la queue de vois-tu que je t'enclume. Freedom, just go to who you can go.
vous retrouve demain à 15h pour La Basse, j'y suis sur France Inter, à Uzeste avec Luba et compagnie. Et tout de suite, vous retrouvez Hervé Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Bonjour à tous, et donc heureux de vous retrouver à ce nouvel emplacement, hein, on en a parlé hier. On est au camping Yes We Camp à Marseille. C'est l'Estac, mais bon, c'est quand même Marseille. Et je suis en compagnie de Sébastien, qui est votre rôle exact ?
Superman.
Superman du camping Yes We Camp. Et donc là, on visite. Et alors, Superman, oui, parce que
je soulève les caravanes. C'est moi qui vais mettre les caravanes au plus haut, en fait. Et alors, ils m'ont surnommé Superman. Mais bon, mon rôle, c'était d'être là pour offrir mes compétences de personne sachant mener un chantier, des équipes. Ah, voilà, sinon, j'ai le CACES, donc j'utilise ce truc pour monter. Ils m'ont appelé Superman, quand c'est un petit problème.
Oui, je me doute que vous ne soulevez pas les caravanes à bout de bras. Il faut expliquer que si vous les mettez en hauteur, c'est pour une question de pression d'eau et récupération de l'eau, et pour que l'eau soit le moins possible gaspillée. Et alors là, on aperçoit des gens qui sont réunis, qui sont en train de discuter, on va s'approcher.
Tu vois, ils ont pris sur eux, c'est une souffrance corporelle, quoi, de bosser comme des arrachés. Donc c'est pour ça que moi je comprends, tu vois, je me dis ça me fait chier parce que j'ai envie que ça se passe bien, mais en même temps, là, je veux qu'on soit qu'à un moment, bah, t'as plus envie.
Mais ce qui est important, c'est que maintenant le projet avance et qu'il s'améliore et qu'il soit de mieux en mieux, et pour ça, je pense qu'il faut mettre son ego de côté et essayer d'oublier un peu les histoires du passé et profiter des choses qui ont avancé et qui se sont améliorées. Et continuer à améliorer celles qui sont encore à améliorer.
Continue, monsieur Pochon. Oui.
Merci, hein, et bonne réunion. Hein. Excusez-moi d'être arrivé comme ça. Mais bon.
Tu as très bien tenu le micro, et c'est d'ailleurs un exercice qu'on fait de temps en temps dans les réunions, c'est d'avoir un faux micro pour permettre à ce que les réunions soient cadrées de manière drôle. Hein.
Mais si quelqu'un veut s'adresser au micro encore avant que je parte, il n'y a aucun problème. Hein. Bon, bonne réunion, hein, merci.
Je vais continuer, je vous fais faire le tour comme je fais faire parfois à certains campeurs qui se posent beaucoup de questions.
Pourquoi ? Quel genre de questions se posent les campeurs ?
Les campeurs, eh ben, je peux retrouver un campeur en haut d'une tour pour savoir comment chauffe notre eau. Le mec, je demande quand même qu'est-ce qu'il fait en haut de la tour. Il me dit « Ah, j'adore la façon dont vous chauffez l'eau, je viens d'Israël, je veux voir comment vous faites, ça m'intéresse. » Donc là, eh ben, la personne, je ne vais pas l'engueuler, je vais demander de descendre, d'arrêter de regarder les gonzesses qui sont en train de prendre la douche. Et de ce fait, ensuite...
Ouais, c'est ça, il s'intéressait aux filles ou il s'intéressait vraiment au problème de l'eau ?
Je pense qu'il s'intéressait quand même au problème de l'eau, parce qu'il essayait de réfléchir à toute cette problématique, puisque ça l'ennuie beaucoup d'aller faire comme un hamster, c'est-à-dire dans de la sciure, parce que nous, on fait caca dans la sciure.
Et toilettes sèches.
Voilà, et je lui parlais de l'eau grise, cette eau de douche. Et il me disait, on peut récupérer ça dans des toilettes. Mais je lui dis, en plomberie, ça nous aurait coûté les yeux de la tête. Alors voilà, donc ça, c'est le camping, la partie haute, où on accueille les campeurs. Là où on était précédemment, c'était la partie bénévole.
Vous êtes combien à œuvrer pour ce camping ?
À œuvrer, en moyenne, on est une quarantaine. Voilà, alors bon, mais il y a des personnes qui sont salariées, c'est vrai, à la cuisine, il y a des personnes qui sont salariées.
Combien vous avez créé d'emplois pour ce camping ?
On a créé combien d'emplois ? Il doit y avoir, moi je suis au courant de 5 contrats. Mais bon, c'est des petits contrats, alors disons que ça peut aider les personnes locales. Ce qui va être surtout, c'est l'activité, c'est-à-dire que nous, on a rémunéré des artisans, on a fait travailler des gens du cru, du coin, de pas loin d'ailleurs. La médiation, c'est ça.
Et en moyenne, vous avez combien de campeurs par jour ?
130. On a 130 places et en ce moment, on est plein, plein, plein. Alors, on essaie de pousser les meubles quand on voit arriver deux vélos. Alors, on dit, bon, deux vélos, ils sont venus de loin, ils ne parlent pas français. Donc, on essaie de pousser les meubles et de leur poser une tente, de leur trouver un endroit pour vivre. Alors après, bien sûr, il y a ces emplois, il y a ces gens qui viennent. Et puis, il y a des gens qui arrivent sans rien.
Bonjour.
Bonjour.
Votre prénom ?
Johan.
Johan. Et alors, comment vous êtes arrivé ici ?
Je suis arrivé ici parce qu'en fait, moi, j'étais à la rue. Et j'ai croisé ce contexte en passant en bus. Et je me suis dit, je vais aller demander pour être bénévole. Ils m'ont pris en tant que bénévole. Là, maintenant, ça va bientôt faire 3 semaines lundi que je suis ici. Et voilà, maintenant, je travaille ici, je me sens bien. Les gens sont vraiment joyeux, c'est bien. C'est vrai.
Quel âge vous avez ?
18 ans.
Et ça fait combien de temps que vous êtes à la rue ?
Ça fait 2 ans. Deux ans que je suis à la rue parce que j'étais en foyer à 5 ans, donc du coup ça m'a fait plein d'histoires.
Ah, en foyer, pardon.
En foyer jusqu'à l'âge de 5 ans, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 16 ans. Je suis parti de moi-même, je suis parti dans la rue, Maintenant, je me retrouve à Yes-Week-Camp, ben, je reviens un peu, quoi. Ils font un peu de social. Ils ne devraient pas le faire, ils le font. Ils ont pris, ils ont fait l'effort de le faire avec moi. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Il y a des embrouilles, c'est normal, comme dans tout travail. Mais en plus, c'est du bénévolat.
Qu'est-ce
voilà.
qu'il y a eu comme embrouille?
Ah, des petits trucs, des petits trucs. Des petits trucs de rien du tout. C'est rien du tout, quoi. Donc, j'espère que ça va continuer.
Vous, votre rêve, c'est quoi?
Moi, mon rêve, c'est d'être barman au Club Med.
C'est vrai?
Oui.
Ah ouais?
Oui.
Pourquoi le Club Med?
Parce que c'est un contexte hors commun aussi.
Ouais.
C'est vraiment un truc, ambiance fête, tout ça, mais... C'est aussi un autre monde, un autre contact avec le client, c'est autre chose. C'est autre chose.
Ben, je vous souhaite d'être un jour barman au Club Med alors.
Ben, merci.
Bon après-midi, Johan.
Merci, pareillement, au revoir.
Au revoir.
Un temps de pochon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain. Ciao, les gars. Tu sais que c'est les pochons à Marseille?
Non.
C'est les pochons où il y a la ganja dedans.
La drogue?
Non, la ganja, c'est pas de la drogue. C'est naturel, l'herbe.
Ah, de l'herbe, de l'herbe. Ça. Ouais.
MAF Assurance, bonjour.
Ah, alors, le MAF Power pour 2013, c'est bien. Mais pour 2014, rien. Les tarifs auto augmentent, bien sûr.
Le MAF Power, c'est la remise auto de 5% sur 2013. Aucune augmentation en 2014.
Aucune?
Mieux, c'est même une baisse des tarifs pour les nouveaux contrats auto 2014.
Oh, Miss MAF, avec le MAF Power, je vous aime aujourd'hui plus qu'hier. Et bien moins que demain.
C'est la MAF.
Conditions sur MAF.fr et dans les agences MAF.
Dès demain 15h, on retrouve Daniel Mermet pour Là-bas si j'y suis. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité avec Laetitia Gaillet.
Le parquet de Paris a décidé d'enquêter sur le programme américain d'espionnage des communications électroniques mondiales PRISM, révélé par Edward Snowden. Le parquet parisien répond ainsi à la plainte de deux associations de défense des droits de l'homme. Les marchés avaient réagi dès hier à la crainte d'une intervention militaire en Syrie. C'est maintenant au tour des cours du pétrole à New York. Les prix ont grimpé cet après-midi pour atteindre leur plus haut niveau depuis 18 mois. L'intervention militaire se dessine en effet au fil des heures. Les États-Unis disent ne pas vouloir y aller seuls. François Hollande a réuni ce midi un conseil de défense à l'Élysée. Pour le Parlement, la session extraordinaire est prévue pour mercredi prochain. La Grande-Bretagne, elle, va déposer un projet de résolution à l'ONU. D'ailleurs, une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU doit avoir lieu ce soir. La Russie, elle, continue de freiner des cas de fer. Il faut attendre, dit-elle, le résultat du rapport des experts des Nations Unies. Ils se sont rendus ce matin une nouvelle fois sur le site attaqué à l'arme chimique la semaine dernière près de Damas. D'après Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Ils disent avoir besoin encore de 4 jours pour terminer leur travail. En attendant, les pays de la région se préparent. Les forces militaires irakiennes sont en alerte renforcée depuis aujourd'hui. Israël vient d'autoriser le rappel limité de ses réservistes. Le Premier ministre tunisien avait déjà porté une première accusation hier. Eh bien, le ministère de l'Intérieur enfonce le clou aujourd'hui. Selon lui, le groupe djihadiste Ansar al-Sharia préparait bien l'assassinat d'une vingtaine de personnalités politiques et médiatiques en Tunisie. La liste a été publiée aujourd'hui. Parmi les personnes visées, selon le ministère de l'Intérieur tunisien, des opposants au régime, le président de la Constituante ou encore un responsable du parti islamiste Ennahda, Amer Larraye, qui est aussi le frère du Premier ministre tunisien. Pour son discours d'ouverture de l'université du MEDEF à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, premier discours en tant que patron du MEDEF, Pierre Gattaz a donné le ton cet après-midi. Il réclame la suppression de l'impôt sur la fortune et de la taxe à 75% sur les plus hauts revenus. Ça ne sert, dit-il, à rien d'autre que décourager les investisseurs et les actionnaires. Un peintre russe a choisi aujourd'hui de quitter la Russie pour la France. Décision prise après que la police de Saint-Pétersbourg ait saisi un de ses tableaux. Sur l'œuvre en question, on pouvait y voir Vladimir Poutine et son premier ministre Dmitri Medvedev en sous-vêtements féminins. Le musée a également été fermé. Selon la police russe, les tableaux exposés étaient en infraction avec la législation russe, notamment la loi qui interdit toute propagande homosexuelle devant des mineurs. Une fillette de 4 ans a été retrouvée morte aujourd'hui au bas d'un immeuble du Havre. Elle est tombée du 14e étage. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle se serait retrouvée seule dans l'appartement au moment des faits. Elle est tombée du balcon. Printemps froid et pluvieux, orage de grêle, la filière viticole s'attend cette année à une petite récolte, 43,5 millions d'hectolitres, soit 2 millions de moins que la moyenne décennale, chiffre donné cet après-midi par le président du conseil spécialisé vin de France Agrimer. Vous écoutez France Inter, il est 16h03 et Frédéric Lodéon, je vous cède la place tout de suite.
Merci beaucoup Laetitia Gaillet, on vous retrouve à 17h bien sûr. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, du Rachmaninov comme s'il en pleuvait. Et Rachmaninov, on le sait, a été critiqué pour être trop romantique, on l'a dit, trop sentimental. Maintenant, il revient en faveur, visiblement, puisque les disques arrivent vraiment très nombreux. Par exemple, un enregistrement qui nous montre des pièces de Rachmaninov, qui nous propose des œuvres pour deux pianos. Et le titre, c'est Héritage. Et ce qui est assez amusant et très moderne pour cet enregistrement-là, c'est qu'on on peut avoir deux versions d'enregistrement, donc, ou bien Fidelity, deux CD qui sont au fond les versions de référence destinées au système audio haute fidélité, et puis deux CD Mobility, donc version adaptée aux écoutes sur baladeur, ordinateur et en voiture. Ça veut dire évidemment un son plus compressé, et si on veut écouter la musique avec toutes ses nuances, il vaut mieux évidemment choisir Fidelity, hein, ces enregistrements. Donc voici un exemple, valse de la deuxième suite pour deux pianos de Rachmaninov. C'était après un moment difficile, un moment de dépression, après l'échec de sa première symphonie, dû à la conduite absolument détestable de Glazounov, qui non seulement était certainement ivre, et qui en plus avait fait des coupures dans cette symphonie, qui avait peu répété, qui avait changé l'orchestration. Donc désespoir dans Rachmaninov, un désespoir qui a duré 2 ans. Il va se remettre après des séances de psychothérapie, d'hypnose, et voilà le résultat, l'espoir retrouvé. Thank you. La valse tirée de la deuxième suite pour deux pianos de Sergueï Rachmaninov, interprétée par Alexander Kobrin, pianiste russe de grand talent, et un autre grand talent qui a étudié en Russie mais qui est français, c'est Frédéric Doria Nicolas, était avec lui donc. Et encore Rachmaninov, sur le même disque, on peut entendre les danses symphoniques. Alors là, c'est un peu à l'opposé de la vie de Rachmaninov. Bien sûr, il y avait une esquisse pour un ballet en 1915, mais après, l'œuvre tout entière a été considérée par l'auteur comme sa dernière étincelle. Il y a eu une version pour deux pianos et puis après une version pour orchestre qui a été créée par Eugène Ormandy d'ailleurs en 1941. Et la version à deux pianos a été créée lors d'une soirée privée à Los Angeles avec le génial Vladimir Horowitz et Rachmaninov lui-même au piano, peu avant la mort de l'auteur. Ben voici le non allegro, pas vite, donc de ses danses symphoniques.